tous et bienvenue sur les ondes positives de CFM Radio. Nous allons passer une petite heure à regarder le verre à moitié plein, à partager de bonnes nouvelles et des messages positifs qui nous ressourcent et nous donnent l'énergie d'y croire, d'être confiant. Cette semaine, pour surfer ou barboter, je ne sais pas, dans des ondes positives, j'accueille Muriel. Bonjour Muriel.
Bonjour Dorothée.
Alors, on ne donne pas ton nom, Muriel, parce que tu aimes bien l'idée qu'une anonyme puisse avoir un message positif pour d'autres anonymes. C'est bien ça, hein ?
Oui, tout à fait.
Alors, je te laisse te présenter, Muriel, en quelques mots.
Alors, en quelques mots, je dirais que je suis une femme, je suis une amie, une compagne, et puis, pour mon plus grand bonheur, je suis aussi maman. Je suis une professionnelle et une professionnelle en mouvement. J'ai travaillé longtemps dans le secteur social et médico-social et aujourd'hui je suis thérapeute. Je me suis construite professionnellement marche après marche, avec beaucoup de doutes, mais sans jamais baisser les bras. Je suis quelqu'un de déterminé.
Merci Muriel pour cette présentation. Et on poursuit tout de suite avec la première rubrique de l'émission, c'est ta bonne nouvelle de la semaine. Et alors, quelle est cette formidable nouvelle que tu as à nous annoncer, Muriel ? Dis-nous tout.
Je ne sais pas si c'est une formidable nouvelle, mais peut-être que les auditeurs ont déjà vu le film. Il s'appelle Mistral gagnant. Ça relate, c'est un film reportage qui relate la vie d'enfants qui ont des maladies graves et leur quotidien à l'hôpital. Mais le film parle surtout de leur énergie, de leur vie et du fait que eux, ils voient les choses avec leur regard d'enfant, à leur niveau, dans leur quotidien. Ils sont pas accablés par le regard des adultes. Les adultes, on a toute une expérience qui fait que on compare en se disant mon Dieu, ça serait tellement bien s'ils vivaient autre chose. Mais en fait, les enfants, eh bien, ils font avec leur quotidien et ils construisent leur petit bonheur avec ce qu'ils ont. Ils sont pas en train de se, ils n'ont pas d'idées noires.
Voilà. C'est un documentaire de Anne-Dauphine Julien qui est en salle depuis le 1er février et qui passait encore dernièrement au cinéma Le Paris à Montauban. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Tu m'as dit en regardant la bande-annonce de ce film, donc et les Mistral gagnants, tu as eu envie de dire merci à ces enfants.
Oui.
Alors merci pour quoi ?
Merci pour dire à quel point la vie est merveilleuse. Parce que on est dans une société où on nous parle toujours de choses négatives, où on nous martèle à quel point c'est difficile, à quel point mon Dieu va-t-on s'en sortir ? Et en fait, même dans des situations les plus compliquées, eh bien ces enfants nous montrent que on est là, on vit, on s'amuse, on a des bonheurs. Donc merci de cette simplicité, de la vie, de ce qu'ils partagent.
Alors j'ai relevé un bout de critique sur telerama.fr, le lien internet que tu m'avais envoyé pour parler du film. Je cite « Neuroblastome, épidermolyse bulleuse, insuffisance rénale sévère, des maladies douloureuses, handicapantes, potentiellement mortelles. Sur un sujet aussi difficile, Anne-Dauphine Julien parvient pourtant à offrir un film rempli de rire, de petits bonheurs, de lumière, en un mot, de vie. » Donc c'est ce que tu nous dis, hein, cette vie qui est là, qui est bien là, malgré la maladie. Et quand tu parlais tout à l'heure, ce qui m'est venu, c'est les enfants, ils font feu de tout bois.
Tout à fait.
Et oui, la vie qui palpite partout, même dans la maladie, même dans l'isolement, même dans les situations les plus désagréables, il y a toujours de la vie et on peut s'y raccrocher à cette parcelle de vie. Alors Muriel, eh bien je viens tout tranquillement à ton message positif, un message que tu adresses aux jeunes et à leurs parents. Alors je te cite maintenant. Quelles que soient les difficultés que l'on rencontre à un moment de notre vie, échecs scolaires, relations conflictuelles, handicap, il est important de croire en nos enfants, en leur exception, en ce qu'ils sont et seront capables de faire.
Oui, j'ai bien connu le petit Pito Chat.
Il m'avait dit qu'il voulait devenir
voyageur.
Il n'avait que ce mot.
Par dizaines, par milliers, par dizaines.
D'ailleurs, je crois bien qu'il est devenu
voyageur.
Ici,
des mots de là-bas.
À quoi cela ressemble-t-il? Un son de couleur?
Eh bien, écoutez, grand vos yeux, et vous ferez bien vos
oreilles. Partez vos oreilles.
The trips are in my heart. The trips are in my heart. The trips are in my heart.
When I go to San Francisco, when I go to Yerevan, when I live in a big city, big and far from rich Paris, I'm living for the trip. I'm singing for the trip.
Le cerveau en ébullition. J'ai la bougeotte, quelle sera ma direction? Je vais chanter. Oh, 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 oh. Autour des continents, chanter mes chansons.
The trips are in my heart. The trips are in my heart. The trips are in my heart. When I sing in America, when I sing in Armenia, when I sing in a big city, big and far from it, Paris, I'm singing for the trip. I'm living for the trip.
Ogre de Barbac, The Trip is in My Heart. C'est une chanson qui est choisie par Muriel, invitée d'Ondes Positives aujourd'hui. Alors Muriel, tu as choisi cette chanson. Quel sens elle a pour toi ?
Alors déjà, j'aime beaucoup les Ogres de Barbac parce qu'ils font, ils sont liés à la planète entière. Ils voyagent beaucoup, ils font des chansons multiculturelles et ils partagent avec leurs enfants. Et cette chanson, elle parle du fait que le voyage, il est dans le cœur. Il n'est pas seulement dans des choses extraordinaires, c'est aussi tout simplement dans la rencontre, dans la rencontre aussi avec soi-même et dans le fait d'avoir envie de s'ouvrir. Mm-hmm. Le voyage, il est aussi à l'intérieur de soi.
Mm, c'était déjà rien que le titre de cette chanson est un message positif. Le voyage est dans le cœur et c'est certainement le plus beau des voyages, hein, la rencontre avec l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, l'échange, le partage, la tolérance. Alors, je rappelle ton message positif, Muriel. Quelles que soient les difficultés que l'on rencontre à un moment de notre vie, échec scolaire, relations conflictuelles, handicap, il est important de croire en nos enfants, en leur exception, en ce qu'ils sont et seront capables de faire. Alors, je pense que pour entrer dans ce message, c'est le moment pour toi de nous expliquer ton parcours et ce que tu as vécu enfant.
Oui. Séquence émotion. Alors, en fait, moi, aujourd'hui, je suis une adulte accomplie, je suis bien dans ma vie. Mais j'ai eu une histoire un peu compliquée qui est liée à ma scolarité. J'étais donc vraiment en échec scolaire. Et quand je dis en échec scolaire, c'était vrai. Je veux dire, il n'y a que mes bulletins de notes qui pourraient vous montrer à quel point c'était dramatique. Et c'était dramatique parce que du coup, j'ai redoublé plusieurs fois. Et malgré tout, mes résultats n'avançaient pas. Donc ça m'a isolée de tout mon groupe ami. Et puis, c'est dramatique parce que pour mes parents, c'était une catastrophe. Une catastrophe, on va dire, dans le regard de l'autre, mais aussi dans l'inquiétude que ça pouvait soulever pour eux par rapport à « mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien devenir si je ne suis pas capable d'aligner deux mots sur une dictée
?» Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi lorsque tu étais enfant ? C'était le jugement des autres par rapport à tes capacités, le fait intérieurement, ton sentiment d'échec de ne pas y arriver alors que les autres y arrivaient, ou la culpabilité de créer du souci à tes parents?
Alors, il y a la culpabilité, mais c'est surtout le fait de, quelque part, de pas exister. Parce qu'on, dans le système scolaire, on existe par rapport aux notes, par rapport aux résultats, et être le cancre de la classe, franchement, à moins qu'on fasse rigoler tout le monde, on n'a pas beaucoup d'amis. Hein. Mm-hmm. Donc, en fait, je n'existais pas. J'étais pas le bon objet, j'étais pas la bonne personne. C'était pas avec elle qu'on avait envie de jouer à la récréation et de sortir le samedi après-midi, parce que bon, il n'y avait aucun intérêt, j'étais nulle. Mmh. Donc c'est ça qui est difficile, parce qu'on sait bien, intérieurement, un enfant sait très bien qu'il n'est pas que ça, enfin, il a d'autres choses. Pour autant, c'est ce qu'on lui renvoie.
C'est cet adjectif que tu viens d'employer qui te définissait à l'époque,
oui.
Nulle.
Ouais. Ouais. Oui, oui, puis je l'ai entendu plein de fois. Mmh. Plein de fois, que ce soit par ma famille, par des amis... Voilà, parce que vraiment, quand on redouble plusieurs fois les premières classes du collège, que malgré tout, on arrive à 5 de moyenne, je peux vous dire quand même, on commence à se dire, franchement, elle a un souci, quoi. Mm-hmm. Et ça, c'était que sur un plan scolaire. Hein. Tout le reste était un petit peu nié. Alors, bien sûr, heureusement, j'avais l'amour de mes parents, mais qui eux-mêmes portaient un poids qui était difficile, mm-hmm. parce qu'ils ne voyaient pas du tout... comment ils allaient pouvoir m'aider, m'épauler.
Ils se sentaient certainement remis en cause, eux, dans leur rôle de parents. Ils devaient se dire, mais si elle n'arrive pas à apprendre, c'est certainement de notre faute.
Hein. Exactement. Mmh. Oui, oui.
Donc, en fait, tout le monde était en souffrance dans cette histoire. Mmh. Oui. Et cet échec a duré tout... cet échec, entre guillemets, je pose ce mot parce que tu l'as donné toi-même, a duré toute ta scolarité?
Ça a duré toutes les années collège, donc c'est-à-dire au début de l'adolescence, au moment où justement on essaie de se construire en tant qu'individu, mm-hmm. et où le groupe ami a le plus d'importance. Toutes ces années-là, même un petit peu après, au début du lycée, mais là je commençais déjà à dire bon, ça va bien, ouais. Va falloir me lâcher avec cette histoire, parce que mes parents ont toujours dit non, mais quoi qu'elle arrive, il faut qu'elle passe en classe supérieure. Allez-y. Mm. C'est ce qui m'a peut-être sauvée, mais...
Leur insistance.
Leur insistance, oui. Ouais. Leur insistance en disant, non, je ne laisserai pas le système écraser mon enfant. Donc, j'ai pu avancer. Voilà. Donc, je suis allée jusqu'au lycée, j'ai même eu un bac, mm-hmm. ce qui m'a ouvert les portes de tout le reste. Mais je crois que de toute façon, parmi les personnes que je rencontre aujourd'hui, j'aurais pas eu un bac, de toute façon j'aurais fini par avoir un diplôme, de toute façon j'aurais continué à avancer, parce que cette blessure là est venue aussi dire je lâcherai pas le morceau, c'est venu construire ça chez moi.
En même temps elle a déconstruit quelque chose, et en même temps elle t'a donné la force pour avancer.
Tout à fait.
C'est la médaille, les deux revers de la
tout
médaille.
Tout à fait.
Comment tu voyais ton avenir à l'époque, alors, quand tu étais au collège?
J'y pensais même pas. Non, c'était vraiment des années très sombres. Hein. Mm-hmm. Vraiment, j'étais très mal dans ma peau, j'étais très triste. Non, ça a été des années très compliquées.
Il n'y avait pas de projection, en fait.
Non, il n'y en avait pas. À ce moment-là, il n'y en avait pas. Mm-hmm. J'étais plutôt rêveuse, on va dire que je m'enfermais plutôt dans quelque chose qui m'appartenait personnellement, plutôt que dans une projection d'adulte.
C'était le rêve, ta ressource, en fait, ce qui te motivait tous les jours. Ouais. En fait, l'énergie, tu l'as trouvée où?
Je pense que je l'ai trouvée dans mon monde intérieur. Mmh. Ouais.
Parce que souvent, les enfants trouvent leur énergie dans le regard des parents, notamment.
Mmh. Oui, j'avais une maman qui était très bienveillante. Enfin, mes parents étaient aimants, c'est pas la question. Après, voilà, c'était à un âge où le groupe enfant et le groupe de copains est très important. Mmh.
Tu m'as dit, il m'a surtout fallu du temps pour me rendre compte que l'enfant qui était en échec scolaire et relationnel n'était pas l'adulte et que je pouvais faire de ma vie ce que j'en voulais.
Oui.
Quand est-ce que tu as commencé à réaliser qu'en fait, c'était une partie de ton histoire, ce que tu avais vécu adolescente, mais que la vie n'allait pas continuer comme ça?
Alors en fait... Après avoir eu le bac, j'ai travaillé. Mmh. Parce que je me voyais pas faire des études, vous imaginez bien. Voilà. Mais cette expérience-là aussi m'a permis de me dire, mais en fait, je suis capable. voilà, je peux faire des choses en fait. Et c'est là
le
que
fait de travailler,
oui,
pour
le
de
fait
vrai.
D'être dans une relation autre que celle d'un enfant scolaire, avec des résultats qui doivent être sur un plan scolaire, mais plutôt sur un résultat par rapport à ce que je fais, parce que par rapport à ce que je donne, par rapport à mes compétences intellectuelles, mais pas forcément à mes compétences scolaires. Et du coup, petit à petit, ben on se rend compte qu'en fait, on est capable. Que peut-être ce regard-là n'était pas exactement le bon, que peut-être il y avait autre chose et que ben, ce que j'ai toujours senti en moi, eh bien, il fallait l'exploiter. Donc à ce moment-là, ben, j'ai repris de l'énergie et puis je suis allée là où j'avais besoin et envie d'aller et je me suis dit, j'ai un rêve. Et je le réaliserai.
D'accord. Donc tout à l'heure, tu nous disais, bon, t'es arrivé jusqu'au bac, mais finalement, si tu ne l'avais pas eu, ça n'aurait rien changé dans ton parcours. Ce que tu veux nous dire, c'est que finalement, il y a plusieurs... pour se construire, il y a plusieurs chemins.
Il y a plusieurs chemins.
Et que, bon, ben, on choisit pas forcément toujours le plus court, ou on n'a pas accès forcément... au plus court, mais c'est pas grave, on va prendre le plus long et ça le fera quand
en
même.
En fait, avec le recul, je veux dire, quand j'étais au collège, concrètement, on m'aurait envoyé très facilement vers une formation professionnelle très tôt. Peut-être que si j'avais pas eu les parents que j'ai eus, ben, peut-être que effectivement, je serais allée vers ce milieu-là. Mais ça n'empêche pas ce que je suis. Et là où c'est important, c'est d'être bien conscient de ça. C'est là où mon message veut prendre sens, c'est au niveau des adolescents et au niveau des parents, de bien entendre qu'on a des compétences qui ne s'arrêtent pas au niveau scolaire et qui ne s'arrêtent pas à 14 ans ou à 15 ans, et qu'on a tout un parcours de vie pour se réaliser et qu'on peut très bien... enfin, on a des coiffeurs qui aujourd'hui sont, par exemple, chefs nationaux d'une chaîne. Enfin, ça dépend des projets, ça dépend de ce que l'on est. Et ça ne s'arrête pas juste à un niveau scolaire, ça ne s'arrête pas à une difficulté à un moment donné. Je le dis parce que aussi, en tant que professionnel social, le nombre de familles que j'ai pu accompagner dans des difficultés, je comprends complètement que les parents puissent être démunis face à de la délinquance, face à de l'insolence, face à du ras-le-bol des adolescents en se disant « Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire de lui ?» Il faut peut-être tout simplement comprendre qu'il a une énergie et qu'il a quelque chose à venir exprimer et à faire. C'est bien sûr, ça ne dépend pas que de ça, mais se dire « Bon... » avec ça, il va faire quelque chose et il va se construire, il va avancer et sa vie s'arrête pas à 17 ans, à 18 ans. Ouais. Sa vie, elle se construit tous les jours. Et ce qu'il fait aujourd'hui peut-être une bêtise fera peut-être que justement, il va en tirer une leçon et avancer pour faire quelque chose de bien plus tard. Tout n'est pas figé en se disant, une fois qu'il a fait une bêtise, c'est à vitam aeternam, quoi.
Donc, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que finalement, pour les parents, ça sert à rien de se faire du souci lorsqu'on nous dit que notre enfant va être orienté vers ce qu'on appelle les voies de garage.
Oui.
Parce que c'est comme ça qu'on les appelle.
Oui, tout à fait.
Un enfant qui n'est pas performant à l'école, on lui propose un métier manuel et on dit c'est une voie de garage, bah, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à suivre la voie générale et la voie royale. Ça, c'est pas grave.
Alors, je ne sais pas si c'est grave ou si c'est pas grave, mais c'est surtout, ce n'est pas une fin en soi. Voilà. Parce qu'effectivement, tout le monde ne peut pas faire un bac général, et puis à la limite, ce n'est même pas la question. Notre société fonctionne comme ça, on serait dans un autre pays, les bacs ne seraient pas gérés de la même façon. Ce n'est pas ça. C'est OK, ton chemin, il va là, parce que ça semble même bien pour toi. C'est un chemin qui te plaît, qui t'intéresse. Ben, allons-y franchement et donne le meilleur de toi.
Oui.
C'est ça. Quoi qu'il arrive, donne le meilleur de toi.
T'as eu la chance de prendre d'avoir conscience finalement assez tôt dans ta vie que tu allais y arriver et que tu allais donner le meilleur de toi. Parce que finalement, c'est en commençant à travailler, donc vers 18, 19 ans, si je comprends bien, que tu as eu cet éclairage. On peut dire, c'est... tôt dans une vie.
Oui, mais ça c'est un tout, vous savez, quand on est continuellement confronté à soi-même, parce que ben finalement on est seul à un moment donné, il faut bien trouver de la ressource. Donc soit on s'écroule, soit la ressource on l'anime et on la fait vivre. Et même si on a, en tout cas à cette époque-là, j'étais certainement pas en capacité de pouvoir l'exprimer de cette façon-là. Elle était là. Donc il fallait juste qu'à un moment donné j'arrive à taper du poing sur la table, à l'affirmer.
Ouais.
Tout ça. Mais l'énergie, elle était là.
Quel parcours tu as eu alors après?
Oula. Après, ben, j'ai travaillé pendant un bon moment en faisant des remplacements, en allant quand même petit à petit vers le secteur social, parce que c'était vraiment dans cette relation-là que j'avais envie d'être professionnellement. Mmh. Mmh. Donc, quand je me suis sentie assez mûre, eh bien, je me suis inscrite à la fac. Et ben, très étonnamment, ben, ça a très bien marché. Mmh. Et puis, du coup, j'ai passé des concours pour pouvoir entrer dans les formations qui m'intéressaient. Concours que j'ai eu,
ouais.
Puis diplôme que j'ai eu, et ainsi de suite. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis thérapeute. Donc, ça veut dire que j'ai repris encore une formation pendant que j'étais en cours de travail.
Ouais.
Et diplôme que j'ai eu aussi, malgré le fait de devoir écrire un mémoire.
Uh-huh.
Donc tout se construit, mais tout ça, cette énergie-là, elle est aussi liée à cette histoire et à cet échec scolaire. Peut-être
ouais.
que j'aurais eu un autre parcours si j'avais pas vécu ça. Donc voilà, il y a des étapes. Et bon, je parle de l'échec scolaire, mais il y en a eu d'autres, des moments difficiles, plein d'autres et très douloureux.
Uh-huh.
Et à chaque fois, c'est quelque chose qui demande du temps pour être apaisé. Et puis, pour en faire quelque chose de plus.
En fait, quand on change l'image que l'on a de soi, tout se transforme finalement, mmh. parce qu'en étant un élève classé nul, mmh. Forcément, on ne peut peut-être pas délivrer mmh. Le meilleur de soi. On est barré, mmh. on a la route barrée par ce nul qui prend toute la place.
Mmh.
Alors que quand on commence à se construire, à savoir ce que l'on veut, à être en lien avec ses compétences, comme tu nous l'as dit, à voir que pratiquement sur le terrain, dans un emploi, eh bien, on est capable de réaliser les tâches qu'on nous donne à donner. Alors là, le nul s'efface mmh. et ça t'a permis
oui.
De te réinscrire, d'apprendre, de revenir à une forme de formation théorique, hein, parce
oui,
que
oui,
la fac,
fait,
etc.
Mais c'est ça.
Et
mm-hmm.
cette fois-ci, en connaissant le succès.
Oui, oui, tout à fait. Mm-hmm. Mais je suis allée vers cette orientation-là parce que pour moi, elle avait du sens, parce
ouais.
qu'elle était réparatrice pour moi. Je veux dire, c'est pas une solution en soi. C'est mon chemin à moi.
Mm-hmm.
Voilà. D'autres, ça sera créer sa boîte. D'autres, ça sera partir en humanitaire. J'en sais rien. Enfin, dans la voie artistique, peu importe. Chacun sa voie. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ce chemin-là, il a été long. C'est pas la voie la plus courte, c'est pas parce qu'on arrive directement au bac, c'est pas parce qu'on arrive directement à la fac et qu'on a tous les diplômes d'affilée que forcément c'est la meilleure voie. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plein de professionnels qui ont fait tout un parcours et qui se disent finalement, je sais pas si aujourd'hui c'est vraiment ce que j'ai envie de faire.
Mm-hmm.
Donc voilà. Tout ça pour dire, encore une fois, je le répète, on a tous des ressources, on a mm-hmm. tous des compétences. Et quand je dis tous, c'est chacun, c'est chaque individu. Et ces compétences-là, il est intéressant de la développer, d'y croire et de croire qu'elle a du sens pour notre société et pour les personnes qu'on va rencontrer.
Mmh. Le sens de ton parcours est très important pour toi. Mmh. Et puis, bien évidemment, cette confiance retrouvée.
Mmh.
Hein, parce que, et dans ton message positif, tu en parles. Croire en nos enfants, croire en soi, croire en sa propre exception. Donc, tu pourrais dire maintenant avec le recul que cette confiance, finalement, tu l'as acquise à quel moment de ta vie?
Bonne question.
C'était déjà jeune adulte quand tu as décidé de reprendre tes études, par exemple, ou c'était que l'amorce?
C'était l'amorce.
Mm-hmm.
Non, c'était l'amorce. Non, je dirais vraiment qu'aujourd'hui, j'ai pleinement conscience de ça. Je dirais presque que c'est les dernières formations en tant que thérapeute qui m'ont
oui.
permis de vraiment le réaliser. Je pense que jusqu'alors, j'avais l'impression de toujours être en combat avec une histoire que je voulais réparer. Alors qu'en réalité, c'est un chemin.
Mm-hmm.
C'est pas forcément un combat, c'est
bon.
Un chemin.
Donc ta réponse montre bien aux auditeurs qu'en fait c'est toujours en construction. Tu
oui.
le disais
oui.
toi-même il y a quelques minutes, mais voilà, il y a que maintenant que cette confiance vraiment est importante, et puis certainement qu'elle va continuer à
oui, j'espère
à
bien.
Alors puisque l'on parle de confiance en soi, eh bien Muriel, je te propose l'interview flash. J'ai confiance. Muriel, s'il te fallait représenter ta confiance en toi en la dessinant ou en prenant quelque chose en photo, qu'est-ce que tu choisirais comme image?
Alors, je vais une réponse bête, le soleil.
Aujourd'hui, tu es confiante sur le fait que la vie t'apporte quoi dans le futur?
La conviction de pouvoir toujours m'en sortir.
En quoi ou en qui n'as-tu plus confiance?
Ouais, réponse bateau, mais aujourd'hui, c'est vrai que la politique me questionne beaucoup.
Mmh. Confiance, étymologiquement, veut dire avec foi. Comment décris-tu ta spiritualité?
Longtemps, je me suis questionnée, mais aujourd'hui, je dirais que pour moi, un Dieu, s'il existe, il est en chacun de nous. C'est ce Dieu-là qu'il faut aimer et qu'il faut chérir.
Avant d'être une femme confiante, tu as été une enfant humiliée. Cette enfant, qu'a-t-elle envie de dire aujourd'hui?
Vie, aime la vie et défonce-toi.
Quelle différence fais-tu entre amour pour soi et confiance en soi?
Vous pouvez répéter la question?
Muriel, quelle différence fais-tu entre amour pour soi et confiance en soi?
J'en fais pas vraiment.
Eh bien, puisqu'on évoque l'amour, on conclut avec In the Name of Love. Pride in the Name of Love. C'est une chanson que nous propose Muriel au micro d'Ondes Positives. Alors cette chanson Pride, que tout le monde appelle In the Name of Love, qu'est-ce qu'elle t'évoque, Muriel?
En fait, quand je l'entends, pour moi, c'est une boule d'énergie. J'adore, oui. ça me prend aux tripes, j'ai envie de danser et j'ai envie de donner. Voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup, puis qui me rappelle ma jeunesse.
Ouais. In the name of love, au nom de l'amour, et pride, fierté. Mmh. Quand on parle de confiance en soi, on peut aussi parler de fierté. À un moment, on devient fier de soi, même si on n'est pas parfait et personne n'est parfait. Mmh. On commence à s'aimer et ça entraîne une certaine fierté.
Oui.
On peut dire qu'aujourd'hui, tu es fier de ton parcours, fier de la femme que tu es.
Je sais pas, j'emploierai pas ce terme-là, mais effectivement, en fait, on pourrait tout à fait le dire, oui.
Mm-hmm. Oh, si t'as choisi cette chanson, cette boule d'énergie, c'est peut-être pas par hasard. Le titre, peut-être.
Je suis venue parler pour moi.
Alors, c'est au nom de l'amour que tu nous transmets ton message positif d'ancien enfant blessé. Mm-hmm. Je le rappelle, ton message positif, quelles que soient les difficultés que l'on rencontre à un moment de notre vie, échec scolaire, relations conflictuelles, handicap, il est important de croire en nos enfants, en leur exception, en ce qu'ils sont et seront capables de faire. Donc tu t'adresses aux enfants, tu t'adresses aux parents également, pour leur dire, ben, croyez en vos enfants et apprenez-leur à croire en eux.
Oui. Essentiellement, en fait. Parce qu'en tant que parent, on peut être démuni, on a une certaine connaissance de la société, mais on est souvent en train de se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Mais plus tard, on ne le maîtrise pas. Plus tard, on ne sait pas, dans 10 ans, quand les enfants grandissent, dans quelle société ils seront, quels seront leurs possibles. En réalité, on ne le maîtrise pas. Donc, c'est maintenant qu'il faut avoir confiance en eux. C'est maintenant qu'il faut leur dire... Mais moi, je crois en toi, je sais qui tu es, je sais... là, t'as tes difficultés là, mais tout le reste, regarde ce que tu sais faire. Regarde comme tu sais bien parler, regarde comme tu sais bien être gentil, regarde comme tu sais bien dessiner, comme tu rends service. Je sais pas, peu importe en fait, mais lui montrer qu'il existe par plein de facettes et que ces ressources-là, de toute façon, elles vont se développer, elles lui serviront si c'est pas forcément dans le futur. Elles lui servent maintenant et c'est maintenant qu'il faut le cultiver et c'est... Parce que vous voyez ça de votre enfant, qu'il faut croire en ce qu'il est capable de faire plus tard. Parce que le plus tard, de toute façon, vous ne le maîtrisez pas. Mm-hmm. Donc maintenant, croyez en lui. Même si, quand je parle de situation de handicap, c'est parce que la société évolue, les lois évoluent, les contextes évoluent. Rien n'est rose, mais pour autant, il y a des choses de possibles. Et moi, j'ai vu des personnes qui avaient des situations de handicap importantes et qui, pour autant, ont pu commencer à avoir des petits boulots dans des ESAT, des établissements spécialisés, mais qui donnent une autonomie, qui donnent des relations. Les choses ne sont pas figées. Mmh. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre soin de nos enfants, c'est maintenant qu'il faut croire en eux en leur disant « si tu crois en toi, tu y arriveras ». C'est ça surtout qui est important.
Alors,
crois en toi.
Tu nous dis « les choses ne sont pas figées » et justement en préparant l'émission, tu me disais « l'idée c'est de ne pas figer un enfant dans sa difficulté
». Tout à fait.
Parce qu'en fait, en appuyant sur ce qui ne va pas, sur la difficulté, on donne toute la place à la difficulté.
Tout à fait.
Et on résume l'enfant à cette difficulté-là. Alors que, par ailleurs, il y a plein d'autres domaines sur lesquels il n'y a aucune difficulté. Au contraire, tout roule
tout
et tout va bien.
Puis je me rappelle aussi de parents qui disaient, mais tu fais rien, tu vas pas rester toute ta vie dans le canapé. C'est ce que tu veux faire, être un adulte et rester dans le canapé toute ta vie. Et là, juste envie de dire, non, mais certainement qu'il n'a pas envie de rester dans le canapé. Il faut juste lui dire, tu sais, si tu te bouges, tu peux travailler l'été, te faire un billet d'avion et partir faire ta vie ailleurs. Il y a des ailleurs, il y a d'autres vies, il y a d'autres communes, il y a d'autres communautés, il y a d'autres façons d'échanger. Et si ça, ici, maintenant, ça ne te convient pas, donne-toi les moyens de pouvoir réaliser ce qui va te convenir.
Alors, hasard ou pas, la semaine dernière, la fondatrice de l'école créative, Créactive, école alternative démocratique, nous donnait avec ses mots le même genre de message, croire en ses enfants, leur permettre de croire en eux-mêmes, quelles que soient les difficultés rencontrées, et surtout élargir son champ de conscience et voir que finalement, il n'y a pas que le modèle éducatif conventionnel des écoles d'aujourd'hui qui existent, qu'il y a autre chose et que les enfants sont vraiment capables d'apprendre par eux-mêmes, par d'autres voies que celles qu'on a imaginées pour eux.
Oui, c'est vrai.
Comment tu fais au quotidien avec tes enfants? Tu as des enfants, toi?
Oui. J'ai deux magnifiques enfants. Comment je fais au quotidien? Alors, je ne sais pas comment font les autres parents, mais moi, je les trouve extraordinaires. Mes enfants, bon, elles sont encore un peu petites. Hein. Je ne suis pas encore à l'âge de l'adolescence, mais pour
elles ont moins de 10 ans. Hein
oui. Pour avoir bien fréquenté les adolescents, j'ai tendance à leur dire que, ben, voilà, exactement ça, c'est-à-dire que je crois en elles. Accentuer les choses sur leur qualité, sur ce qu'elles sont capables de faire. Et bon, après, avec moi, mon histoire, ben forcément, le côté scolaire, c'est pas sur quoi je vise le plus, même si je considère qu'il faut qu'elles donnent le meilleur. Mmh. Ok, ça te plaît pas, ok, t'es en difficulté, t'arrives pas à résoudre ce problème, mais tu te dois de donner le meilleur. Si t'y arrives pas, c'est pas grave, mais va jusqu'au bout et donne ce que t'as à donner de ça. Mmh. Ne lâche pas, ne baisse pas les bras. Et puis, j'essaie vraiment de les amener à se rendre compte qu'elles sont capables par elles-mêmes. Bien sûr qu'elles sont petites et qu'elles ont encore besoin de moi en tant que maman, avec un support dans le regard et dans le geste, mais aussi qu'elles comprennent bien qu'en elles-mêmes, elles ont les compétences et l'énergie pour résoudre ce qui leur pose problème. Mmh. Ça, c'est par des petites choses du quotidien. Continuellement.
Qu'est-ce que tu as conscience de faire différemment des autres mamans en général? Est-ce qu'il y a un petit truc comme ça où tu sais que toi tu fais différemment et que quelque part tu es dans une forme de vérité quand tu le fais?
Alors une forme de vérité, en tout cas je suis dans la mienne.
Oui, c'est sûr.
Je profite de maintenant. Voilà, je profite de ce que je vis maintenant avec elle parce que déjà ces instincts-là ne se renouvelleront pas. Et puis parce que je ne sais pas de quoi sera fait leur avenir. Vraiment, ça va tellement vite, la société évolue d'une telle façon que je peux pas aujourd'hui, j'ai pas envie de m'inquiéter pour elles, pour l'avenir. Je sais pas ce qu'elles feront, je sais pas si elles travailleront sur Mars ou si elles seront de l'autre côté de la planète ou juste à côté de nous, je n'en ai aucune idée et aujourd'hui c'est pas mon souci. Je profite de l'instant présent. Voilà.
Donc ça veut dire qu'en tant que parent, c'est intéressant d'être vigilant, mais pas forcément anxieux par rapport à l'avenir. De vouloir tout gérer, vouloir tout anticiper et maîtriser pour que surtout nos enfants soient bien. Mmh. Parce que souvent on entend les parents qui disent « oui, mais c'est pour son bien, plus tard il me remerciera ». Donc on est vraiment dans l'anticipation de ce que pourrait être le bonheur pour les enfants. Mmh. En fait, tout ça c'est un chemin plutôt compliqué.
On ne le maîtrise pas. Ouais. Je le comprends complètement parce que je suis maman, donc je comprends complètement cette inquiétude et l'envie d'aller donner le meilleur à ses enfants. Et en même temps, ils ont leur chemin et il y a des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a quelque part des fois des blessures personnelles en tant que parent qui n'ont rien à voir avec le parcours de nos enfants.
Et, ouais. Et donc toi, tu as su gérer cette blessure, guérir la blessure de façon à ce que tu ne répercutes pas en fait les conséquences de la blessure dans l'éducation de tes enfants. Ta force, celle que tu as développée de par l'épreuve que tu as dû affronter, tu crois qu'elle se transmet?
Alors je dirais que oui. En fait, je pense qu'elle se transmet parce que forcément, ma posture en tant que femme, en tant que Camille dans les relations, en tant que citoyenne, ma posture de tous les jours, quand elle me regarde, même si je suis pas en train de leur dire les choses, mais quand elle me regarde, forcément, elle s'imprègne de ce regard-là, de cette posture-là. Je pense qu'elles en feront, mais elles ne peuvent pas passer à côté, c'est sûr.
Mais c'est par l'exemple, hein.
Tout à fait. Ouais. Mais c'est l'exemple que l'on voit, pas forcément celui que l'on dit.
Ouais. Et oui, c'est là que c'est compliqué, hein. De dire aux enfants de pas se faire de soucis ou de croire en eux quand nous-mêmes on se fait du souci, que nous-mêmes on est anxieux par rapport à leur avenir. Ce que l'on est passe bien, ce que l'on dit passe moins bien.
Oui.
Alors justement, restons dans cette idée de transmission, hein, est-ce que la force se transmet, puisque c'est le moment de lancer la rubrique « Je partage ». Et c'est une mise à l'honneur d'une action qui te touche, Muriel. Alors je te laisse en parler.
Alors, en fait, depuis plusieurs mois maintenant, il y a un centre ressources qui accueillent des personnes qui sont atteintes par un cancer ou qui accompagnent aussi leur famille. Et c'est pas tant le centre ressources que je voulais mettre à l'honneur, mais surtout les personnes qui ont mis leur énergie dans sa création, parce qu'il s'agit de deux femmes. Alors c'est vrai que je m'identifie peut-être, mais ces deux femmes-là, elles ont pris sur leur temps personnel, sur leur temps familial, pour construire un projet qui leur semblait être la bonne façon de donner leur intelligence, leurs compétences, de la faire partager. Et j'aime cette idée de pas forcément faire les choses que dans un intérêt financier ou que dans un intérêt de se faire connaître, mais aussi dans l'idée de ça me paraît bien pour notre société, ça me paraît éthique, ça me paraît être la bonne route et je me donne les moyens de le faire. Et les femmes qui ont mis en place ce centre, pour moi, elles sont dans cette dynamique-là. Elles mettent leur intelligence au service de l'autre et lâchent pas les bras.
Alors, Muriel, une femme qui met à l'honneur d'autres femmes. Tu nous parles d'Astrid Romain et Julie Valade qui sont venues au micro d'Ondes Positives pour parler du centre ressources il y a quelques mois et que donc les auditeurs connaissent un peu maintenant. Donc, tu nous parles d'engagement dans la collectivité et d'engagement même pour œuvrer pour l'élévation de l'humanité en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Je crois qu'en réalité, chacun d'entre nous, dans sa façon d'être, peut participer à ça. Il ne faut pas forcément faire partie d'une grande association ou d'un grand mouvement. Il suffit tout simplement de le vouloir en tant qu'individu et dans sa posture des avis de l'autre, on peut vraiment être dans quelque chose de constructif qui aura des répercussions sur une autre personne et ainsi de suite. C'est l'effet boule de neige. Donc, je trouve que vraiment l'engagement de ces femmes qui étaient aussi dans le fait de partager plusieurs professions, de ne pas être dans une espèce de rivalité entre celles qui savent faire, celles qui ont la réponse. Non, c'est on ouvre cet espace pour que les personnes puissent se rendre compte qu'est-ce qui leur convient, qu'est-ce qui vient les susciter, qu'est-ce qui vient les réveiller, qu'est-ce qui vient leur faire du bien. Super.
Oui, ça peut être aussi vu. Chacun apporte ce qu'il est, ce qu'il sait faire, et le met à disposition de la communauté entre guillemets. Le centre ressources n'est pas une communauté, mais pourrait extrapoler, voir ça au sens large. Ceux qui ont des facultés intellectuelles, cérébrales apportent cette faculté-là. Ceux qui sont des manuels apportent aussi cette compétence-là. Et en fait, ça rejoint bien ce que tu nous disais en début d'émission. On est tous différents, on a tous des compétences différentes, on est tous des exceptions et on peut emmener ça dans le monde pour créer un monde je sais même pas quel adjectif utiliser, on va dire un monde merveilleux.
En tout cas un monde dans lequel on a envie d'avancer. Je pense qu'on n'a pas tous forcément la même définition d'un monde merveilleux, mais en tout cas, on a le droit d'œuvrer pour celui qu'on pense être merveilleux.
Un monde qui permet que chacun puisse s'accomplir selon sa propre voie. Et bien justement, on parle de monde merveilleux, alors un monde comme ça. Baby Wonderland du groupe Earth, Wind and Fire. C'est une chanson qui met en joie, Muriel. Alors pourquoi tu nous la partages ?
Alors je l'ai choisie parce que ben, ça fait forcément référence au film Intouchable. Ça fait pour moi écho avec bien sûr le parcours d'Omar Sy, que ce soit de façon personnelle et acteur dans son métier d'acteur, mais aussi dans le rôle qu'il a dans Intouchable, avec le côté improbable de pouvoir à ce point-là finalement trouver sa place et réussir. Mmh. Ce que j'aime aussi dans ce film, c'est le côté décalé. Parce que lui, il ne voit pas la personne dont il vient s'occuper comme une personne malade, mais plutôt comme, voilà, c'est un boulot, il faut que je le fasse. Et la personne qui reçoit Omar Sy, elle se dit pas, c'est un délinquant, il va me prendre la tête, mais plutôt, j'ai besoin de quelqu'un et ça sera lui et pas autre chose. Mm-hmm. Donc ce regard décalé qui est pas figé et qui laisse la place à pouvoir s'inscrire dans la vie autrement, eh bien, ça fait ce que ça peut faire. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa.
Mmh, une très belle illustration.
Et puis pour l'anecdote, les costumes de l'époque sont quand même délurés. Pour dire que...
Les costumes du groupe, hein,
du de Earth, Wind & Fire. Les costumes du groupe sont assez délurés pour dire que vraiment, tout mène au succès. Hein, y a pas
Eh bien, merci pour tout ce que tu nous dis, Muriel. Merci pour ta vision positive, pour les mots que tu nous donnes, pour les messages positifs que tu nous as transmis, et par ces belles illustrations là qui bouclent l'émission. Donc, on invite tous les auditeurs à regarder à nouveau Les Intouchables, dans l'optique du message positif que tu nous as donné. Rien n'est figé dans la vie et il y a toujours un moyen de se faire une vie plus belle, plus autonome, plus libre et pas forcément avec un beau bulletin de notes. Merci beaucoup Muriel pour ton témoignage.
Merci à toi Dorothée, sincèrement merci.
Chers auditeurs, eh bien voilà, plusieurs messages aujourd'hui encore. D'abord, ce n'est pas parce que vous avez vécu des moments douloureux que ça va durer toujours. La confiance en soi, ça se récupère. Et puis, veillez à ne pas reproduire les vieux schémas. Ayez confiance en vos enfants et donnez-leur la chance de ne pas vivre les difficultés émotionnelles par lesquelles vous êtes passés. Je vous rappelle que cette émission sera rediffusée dimanche à 20h et que vous pouvez également l'écouter en podcast sur cfmradio.fr, rubrique Les émissions, émissions ondes positives. Par ailleurs, si vous voulez à votre tour venir témoigner et partager votre message positif, il suffit de prendre contact avec moi. Je suis Dorothée Alliot et mon mail est dag@saccomplir.com. Je vous souhaite une belle semaine et à mardi prochain.